Europe 1. Écoutez le monde changer.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Marlène Schiappa, bonjour.
Bonjour.
En ce dimanche de Pâques, le gouvernement se fait sonner les cloches par l'archevêque de Lyon. Monseigneur Olivier de Germay, c'était sur Europe 1 ce matin, le primat des Gaules, accuse le pouvoir d'imposer l'athéisme au nom de la laïcité. On écoute et vous réagissez.
Très bien.
L'athéisme est une option qui est respectable, mais quand on veut faire disparaître les religions de l'espace public, c'est une façon d'imposer l'athéisme.
Qu'est-ce que vous dites ?
Alors, je crois qu'il y a une confusion dans les concepts, si vous me le permettez. Personne au gouvernement ne cherche à faire disparaître les religions. L'athéisme et la laïcité sont deux choses différentes. Et la laïcité, rapidement, elle se fonde sur deux principes. Un, la séparation des églises et de l'État. Et deux, la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc, la liberté de culte. Donc, bien évidemment, il y a une liberté religieuse. Et j'étais mobilisée ce week-end pour la garantir, notamment aux abords de l'église Saint-Sulpice, que l'État sécurise comme 500 lieux de culte à Paris et en petite couronne.
Voilà, ça s'est clarifié, mais on reviendra bien sûr sur cette question sensible. Il reste 600 jours pour tout changer, avait dit Jean Castex en arrivant à Matignon en juillet. À la mi-mai, on ouvrira les terrasses et à la fin de l'été, tous les Français qui l'auront voulu seront vaccinés, a dit le président de la République cette semaine. Et dans 15 jours, 10 millions de Français seraient vaccinés, donc répète le ministre de la Santé. Finalement, on le voit, aucun exécutif ne résiste à la tentation du calendrier, comme si tenir une date était le seul moyen pour rétablir la confiance entre des Français et un pouvoir secoué par les crises successives. Marlène Schiappa, macroniste des premiers jours, donc vous allez nous dire comment vous allez inverser la tendance dans les 12 mois qui vous restent avant l'élection présidentielle. Pour votre grand rendez-vous, je salue Cécile Cornudet des Échos, Damien Fleurot de CNews. Damien, c'est à vous.
Oui, bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
En exclusivité, on va diffuser un extrait du clip que vous avez réalisé, que le gouvernement a réalisé sur les violences conjugales. Regardez et on réagit après.
S'il vous plaît, je vous en donne un accident.
Lorsque vous êtes témoin d'un accident, vous n'hésitez pas à appeler les secours. Pourquoi hésiter quand vous êtes témoin de violences conjugales sexistes et sexuelles?
Témoins, signalez les faits aux services de police et de gendarmerie.
Pourquoi cette campagne ? Est-ce que les derniers chiffres des violences conjugales vous inquiètent ?
Oui, il y a une vraie préoccupation vis-à-vis des violences conjugales et aussi vis-à-vis des violences intrafamiliales, notamment avec la fermeture des écoles. On sait d'expérience maintenant avec le premier confinement que ça induit quasi mécaniquement une augmentation des violences intrafamiliales. Et ce que nous avons voulu dire avec ce clip, c'est que lorsqu'on voit un accident ou lorsqu'on voit un incendie dans la maison d'à côté, on appelle immédiatement les pompiers, on se pose pas de questions, on se dit pas est-ce que c'est de la délation, est-ce que je me mêle de quelque chose qui me regarde pas. Moi je voudrais que le réflexe ce soit le même parce que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir contre les violences conjugales, mais ne peut pas tout seul. Et la police, elle a besoin d'être
prévenue. Il y a plus de signalements, toutefois, aujourd'hui ?
Absolument. Et ça, c'est positif. D'abord, avec le Grenelle des violences conjugales, il y a eu beaucoup de mesures et on a fait mieux connaître notamment le numéro du 3919. Le 3919, c'est un numéro d'écoute et d'accompagnement des femmes. En cas d'urgence, c'est le 17 et la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet de dialoguer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les forces de l'ordre sur les violences conjugales et intrafamiliales.
Cécile Cornudet.
C'est étonnant, Marlène Schiappa, parce que vous avez changé de ministère, vous êtes à l'intérieur chargée de la citoyenneté et où on vous entend toujours beaucoup sur ces questions de femmes, comme si vous n'arriviez pas à lâcher le sujet. Comme si vous n'aviez pas quelqu'un qui vous avait succédé au ministère de l'égalité homme-femme.
Alors plusieurs choses. D'abord, Dieu merci, dans ce pays, on a le droit de ne pas être ministre chargé des droits des femmes et de se préoccuper du sort des femmes. Je crois que c'est au contraire important que l'ensemble des ministères se mobilisent. Et d'abord, c'est un combat moi, que je mène depuis l'adolescence et que je ne vais certainement pas lâcher, quel que soit mon rôle au gouvernement ou en dehors. J'étais féministe bien avant d'être engagée au gouvernement, d'une part. Et d'autre part, le ministère de l'Intérieur, c'est aussi le ministère de la protection des femmes. Nous sommes le premier contributeur en moyens humains et financiers à la protection des femmes. Cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr, je l'avais lancée avec Christophe Castaner à l'époque. Et ce sont des policiers et des gendarmes qui sont mobilisés. Vous savez que 4 à 400 reprises par semaine, il y a des gendarmes ou des policiers qui interviennent pour des violences conjugales. Alors ça me semble quand même fondamental que le ministère de l'Intérieur s'en préoccupe et c'est une fierté pour moi de m'occuper de la formation, de l'outillage, de l'accompagnement des policiers et des gendarmes pour qu'on réponde mieux aux violences conjugales.
C'est toujours un problème au sein de la société française. Depuis tant d'années, vous avez dit que c'était la grande cause du quinquennat. Vous avez le sentiment que vous réussissez à à faire reculer ce fléau ?
Moi, j'observe d'abord qu'il n'y a aucun gouvernement qui a pris la question des violences conjugales à bras-le-corps comme ce gouvernement l'a fait. Le Grenelle des violences conjugales, il a donné lieu à 2 lois, à plusieurs centaines de mesures très, très efficaces. Et oui, nous avons des premiers résultats, puisqu'il y a eu pour la première fois moins de féminicides qu'habituellement l'année précédente. Mais évidemment, on ne peut pas s'en satisfaire. Il reste encore des femmes et des enfants à sauver face aux violences intrafamiliales.
Alors, les annonces du président de la République cette semaine, avec leur difficile mise en application. Vous dites maintenant que partir en week-end n'est pas autorisé. C'est la seule sanction, c'est la seule réponse que vous pouvez fournir aux Français ?
Pas du tout. Moi, je crois au contraire que le message que nous essayons de passer, et je vais tenter d'être le plus clair possible, le message
oui,
que nous voulons
que c'est
passer...
Oui, c'est un défi, oui.
Ouais, absolument. C'est pour ça que je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais simplement, c'est un message de confiance, c'est un message de responsabilité. Ce week-end, il y a effectivement une tolérance pour les personnes qui souhaitent aller passer les prochaines semaines ailleurs. Ensuite, les déplacements entre les régions ne seront plus autorisés, sauf les motifs impérieux. Deux choses. D'abord, un, vous dire pourquoi. Pourquoi ? C'est parce que le virus, il ne circule pas tout seul. Le virus, il circule parce que des femmes et des hommes le font circuler en se déplaçant. Donc, ne pas se déplacer, c'est entraver la circulation du virus. Et ensuite, les motifs impérieux, eh bien, ce sont les motifs que l'on connaît. Par exemple, vous avez un proche très malade que vous devez aller voir, ou vous devez aller déposer ou chercher vos enfants que vous faites garder ponctuellement par des grands-parents qui seraient vaccinés. Mais de façon générale, c'est vraiment un appel à la responsabilité. Maintenant, ça fait 1 an, les Français connaissent les mesures sanitaires, ils savent comment on fait freiner le virus, chacun est responsable pour prendre ses décisions.
Et surtout, ils décident aussi, parfois, bien souvent maintenant, surtout quand ils sont jeunes, de les contourner, hein, selon les sondages publiés cette semaine, notamment par le Blackbone Odoxa pour Consulting pour Figaro. Eh bien, il y a pas de respect scrupuleux pour les jeunes. On a vu à Bruxelles cette semaine un affrontement entre jeunes et policiers dégénérés. Les jeunes s'étaient rassemblés au nom de Liberté, Liberté. Vous craignez que ces mouvements n'arrivent aussi sur le
Moi, je distingue les choses. D'une part, il y a les grands rassemblements totalement irresponsables, comme on a pu voir avec le carnaval à Marseille ou la fête qui a eu lieu aux abords de la Saône. Et là, c'est évidemment totalement irresponsable, mais il y avait aussi des adultes. Hein. Ce n'est pas que des jeunes. Et d'autre part, moi, je voudrais dire que les jeunes, et je le dis en tant que mère de famille, notamment mère d'une adolescente, moi, je trouve que les jeunes font beaucoup d'efforts. La situation, elle est difficile pour eux. Ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, dans la possibilité de faire des stages, de poursuivre leurs études, de voyager, de rencontrer leurs amis. Donc moi, je voudrais saluer la responsabilité de l'immense majorité des jeunes de ce pays.
Alors, juste quelques secondes encore par précaution, puisque on voit depuis quelques jours qu'il y a un reportage d'M6 qui fait état de soirées clandestines, privées, avec des restaurateurs, des invités sans masque et dont certains ministres auraient donc été également dans la partie. Vous n'avez jamais été dans un restaurant clandestin ?
Absolument pas. Non, non, en aucun cas. Vous savez, nous, on est là d'abord, on est enfermés, entre guillemets, on est entre le ministère et le Parlement pour le projet de loi sur le séparatisme. Et ensuite, quand on se déplace, c'est de manière très scrupuleuse avec les préfets pour accompagner des mises en œuvre de politiques publiques. Mais je veux dire que si d'aventure, il y avait des ministres ou des députés qui auraient enfreint les règles, eh bien, il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme chaque citoyen.
Damien Fleurot.
Marlène Schiappa, on a l'impression qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures. On voit effectivement des forces de l'ordre débarquer sur des grandes esplanades pour mettre un terme à certains rassemblements, notamment avec des jeunes. Et ces réunions clandestines, ces restaurants qui ouvrent, on n'a pas l'impression que finalement, il y a une action forte du gouvernement pour mettre un terme à ce type
de... Si, il y a eu une action très forte. Depuis le mois de décembre, il y a eu plus de 5 500 000 contrôles des forces de l'ordre au global depuis le mois de décembre.
Mais qui visent des soirées clandestines, qui visent des restaurants clandestins.
Il y a eu plusieurs centaines d'établissements type débits de boissons ou restaurants clandestins qui ont été faits fermer par les forces de l'ordre. Ça n'est pas forcément médiatisé à chaque fois, mais évidemment, les forces de l'ordre sont très vigilantes. Et là, s'il y a des enquêtes journalistiques qui démontrent qu'il y a des restaurants clandestins, il faut que toutes ces informations soient transmises aux forces de l'ordre pour qu'on puisse les faire fermer. Le virus, si vous voulez, on ne peut pas se dire...
Il faut le faire savoir peut-être plus, alors, dans ces cas-là ?
Non, moi, je reste... Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour le faire, mais je veux rappeler à chacun, parce que j'ai regardé un bout de ce reportage et j'ai vu quelqu'un qui dit « Ici, on ne met pas de masque parce qu'ici, il n'y a pas de virus. » Mais enfin, c'est absurde, c'est de l'obscurantisme. De l'obscurantisme, tout simplement. Le virus circule partout, que vous soyez riche, pauvre, que vous soyez dans un restaurant, avec des amis ou au travail, le virus circule. Et s'en protéger, c'est s'éviter d'être malade, d'aller à l'hôpital et de contaminer des personnes plus fragiles, très simplement.
Cécile Cornudet.
Malène Schiappa, vous êtes, on l'entend, obligée d'avoir un discours d'ordre, de respect des mesures. Au début du quinquennat, vous vouliez incarner plutôt la jambe gauche du macronisme. Là, vous êtes dans une posture un petit peu inverse. Est-ce que ce n'est pas un peu inconfortable?
Alors d'abord, je ne crois pas du tout être dans une posture inverse. Vous savez, moi je porte, vous l'avez rappelé gentiment, la question de la protection des femmes et des enfants face aux violences conjugales et intrafamiliales avec les forces de l'ordre. J'ai pris des circulaires pour naturaliser les travailleurs qui sont les travailleurs de la première ligne face au Covid. Nous avons naturalisé 1200 personnes qui étaient des étrangers, qui sont maintenant des citoyens français. Je ne suis pas absolument sûre que ce soit une mesure de droite. Et enfin, la laïcité, c'est quelque chose que je porte avec vigueur au gouvernement, je crois que nous en reparlerons. La laïcité, c'est aussi Aristide Briand, Anatole France, Jean Jaurès. Je ne crois pas que ce soit un principe de droite. Et enfin, en ce qui concerne le virus, moi, je crois que la lutte contre le virus, ce n'est pas de droite, ça n'est pas de gauche. On ne peut pas dire que les gens qui sont de droite respectent les mesures et les gens qui sont de gauche ne voudraient pas respecter les mesures sanitaires. C'est la même chose pour la sécurité. Quand on est une jeune femme et qu'on veut rentrer chez soi en sécurité en empruntant les transports en commun, je ne crois pas que ce soit une volonté de droite. La sécurité, ça n'est plus le monopole de la droite, me semble-t-il, depuis quelques années.
Mais il y a un constat aussi partagé de plus grande violence dans la société française.
Absolument.
Est-ce que vous le constatez également? Est-ce que vous pensez que les mesures prises par le gouvernement sont à même de pouvoir régler le problème?
Oui, je le constate. J'étais en déplacement au commissariat de Paris-Centre il y a quelques semaines de cela. J'ai pu échanger avec les policiers, les gendarmes qui sont mobilisés, notamment face au phénomène de bande et de violence entre jeunes. Et j'ai créé il y a 15 jours de cela un comité qui s'appelle le Comité des parents contre le harcèlement, qui vise à réunir des associations, des professionnels de la lutte contre la délinquance pour outiller les parents face au phénomène de harcèlement entre jeunes et face à ces violences terribles entre jeunes. Les experts de ce sujet nous disent que maintenant, à partir de 12 ans, 13 ans, il y a de la délinquance, oui.
On se retrouve dans quelques instants avec Malène Schiappa.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Malène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Question de Cécile Cornudet.
Oui, les Pays-Bas viennent d'annoncer qu'ils suspendaient la vaccination par AstraZeneca aux moins de 60 ans. Et en France, on l'a vu ce week-end, il y a beaucoup de centres à Paris, à Calais, qui ne trouvent pas preneur pour ce vaccin. Est-ce que la défiance n'est pas en train de s'installer sur AstraZeneca?
Moi, j'observe que sur la question de la vaccination, on a peut-être accordé une place très importante aux questions de défiance, et notamment, je pense, au mouvement anti-vaccin, qui, dans un premier temps, se sont beaucoup exprimés et qui étaient très relayés, d'ailleurs, dans les médias, à tel point qu'on avait le sentiment que la majorité des Français étaient hostiles au principe même de vaccination.
Oui, mais le gouvernement ne parlait qu'à eux, ne parlait qu'aux anti-vaccins aussi au début. C'est pas, est-ce que
alors,
c'est pas votre erreur de départ?
On a peut-être trop écouté les anti-vaccins, mais vous savez, c'est difficile dans une pandémie. On essaye d'écouter tout le monde et de trouver des solutions et de les communiquer avec le plus de pédagogie possible. Mais je voudrais vous dire que j'étais le week-end dernier à Valence avec le Premier ministre Jean Castex, dans un hôpital qui pratique la vaccination. Et il y avait, d'abord, je veux évidemment saluer les soignants qui sont engagés, les pompiers également qui sont engagés, qui rejoignent cette démarche de vaccination. Et nous avons vu avec le Premier ministre beaucoup de personnes venant de partout pour se faire vacciner de façon très volontaire et très enthousiaste, même, dirais-je, puisque le vaccin, c'est aussi la lumière au bout du tunnel, la possibilité ensuite de revenir vers une vie normale.
Alors bien sûr, vous écoutez finement les choses. Le problème n'est pas tant la vaccination que le problème avec le vaccin AstraZeneca, problème supposé. L'Agence britannique du médicament a annoncé hier que 7 personnes ayant reçu ce vaccin sont mortes de thrombose sur 30 identifiées. En France, 12 cas de thrombose, dont 4 décès. La famille d'une personne morte d'une thrombose à Toulouse porte plainte pour obtenir éclaircissement. Alors la question est simple, n'est-on pas en train d'assister tout simplement à un début de scandale sur AstraZeneca?
Moi, sincèrement, je suis pas. Je sais que la période fait que tout le monde commence ses phrases en disant « je ne suis pas scientifique, mais » ou « je ne suis pas médecin, mais » et donne un avis très tranché. Moi, je ne suis pas scientifique, point. Donc, j'ai des avis très tranchés sur les questions de laïcité, d'égalité entre les femmes et les hommes, de démocratie, pas sur l'efficacité de tel ou tel vaccin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre Jean Castex s'est fait vacciner lui-même avec le vaccin AstraZeneca et que de nombreuses personnes, une majorité de personnes, s'est fait vacciner avec le vaccin AstraZeneca sans avoir d'effet secondaire derrière. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas mener des investigations pour comprendre les effets secondaires,
y compris graves. Le gouvernement n'est-il pas en train de lâcher discrètement comme ce vaccin, selon Agnès Pannier-Runacher? Le gouvernement donc pourrait bientôt s'en passer de AstraZeneca parce qu'il y aura beaucoup d'autres vaccins, Moderna, Pfizer et compagnie. Donc on est en train quand même de dire aux Français, attention, bientôt... on va pouvoir s'en passer, on le lâche.
Non, quoi. Honnêtement, enfin, vous citez les collègues de les propos, pardon, de ma collègue Agnès Pannier-Runacher. J'ai toute confiance en elle et en Olivier Véran. La décision ne relève pas de mon périmètre.
Damien Fleurot.
Oui, l'autre sujet qui concerne l'exécutif, ce sont les autotests. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'audace à ce niveau-là, tout simplement?
Un problème d'audace, c'est-à-dire?
Mais oui, parce qu'en fait, on constate que dans d'autres pays, d'Europe notamment, ces autotests sont en vente libre, dans les grandes surfaces, pas uniquement en pharmacie, comme ça va être le cas en France. Pourquoi ne pas distribuer plus largement cette possibilité de tester à domicile?
Oui, bah, le ministre de la Santé, des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, s'est exprimé sur ce sujet. Moi, je crois que l'idée, c'est effectivement de permettre à chacun de se tester le plus facilement possible, le mieux possible. C'est évidemment une solution qui est pertinente. Mais moi, je voudrais dire que dans la comparaison avec les autres pays, parfois, j'ai le sentiment qu'on compare un peu des choux et des carottes. Sur la question de la vaccination, je ne parle pas pour ce sujet en particulier, mais sur la question de la vaccination au global, j'ai entendu dans l'hémicycle des députés chanter les louanges du modèle de santé américain, en disant qu'aux États-Unis, c'était tellement mieux, etc. Aux États-Unis, les tests, vous les payez. Et vous les payez très cher. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes en situation de précarité aux États-Unis.
Mais quelle est la difficulté de mettre en vente ces autotests en grande surface, par exemple ?
Parce qu'elles n'ont pas pu se tester et avoir accès de façon simple et gratuite à un test.
Quelle est la difficulté de mettre en vente ces autotests dans des grandes surfaces, comme c'est le cas, par exemple, au Portugal ou en Allemagne ?
Mais là aussi, je ne suis pas. On me reprochait tout à l'heure de parler de la question des violences conjugales. Pardon, je ne suis pas en charge des questions de vaccination. Et donc, je ne veux pas rentrer dans un débat empirique sur les questions de vaccination. Mon collègue Olivier Véran sera amené à s'exprimer sur ce sujet. Le Premier ministre fait des points presse très régulièrement. Nous sommes mobilisés pour faire en sorte d'engager les pompiers. Je le disais tout à l'heure,
mobilisés,
moi, je serai en Corse.
D'accord.
Je serai, juste pour terminer là-dessus, je serai en Corse la semaine prochaine parce que la Corse du Sud est le département champion de la vaccination. Pourquoi c'est le département champion? Notamment parce qu'il y a beaucoup de solidarité intergénérationnelle et qu'on a appelé les personnes les plus âgées. Voilà ce sur quoi aujourd'hui nous sommes mobilisés, y compris nous au ministère de l'Intérieur, c'est faire en sorte d'aller vers les populations qui sont éloignées de la vaccination et voir que les personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas encore vaccinées, elles doivent prendre rendez-vous. Et je les invite, juste pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écoutent et qui vous regardent, je les invite à prendre contact avec leur médecin pour pouvoir se faire vacciner.
Le problème qu'on vous pose, en fait, il est politique. Vous avez d'un côté un président de la République très volontariste qui dit allez-y, osez, casser les codes, avancer. Et de l'autre côté, à chaque fois, des réactions de l'administration qui disent prudence, attention, on ne sait pas servir des autotests. C'est comme on disait au début des masques, vous ne savez pas vous en servir. Et bientôt, on va s'apercevoir qu'il y avait des restrictions. Est-ce que là, on n'est pas au cœur du problème, au fond, que soulève souvent d'ailleurs le président de la République?
Alors,
lui-même, ça n'avance pas.
Si ce que vous essayez de me faire dire, c'est que l'administration est une grosse machine lourde et que c'est un paquebot et que parfois cela entrave l'agilité, l'audace des décisions et des impulsions politiques, la réponse est oui. Mais je ne veux pas non plus uniquement blâmer l'administration parce que la France, c'est une république, c'est un État qui est extraordinairement bien organisé, qui est maillé grâce aux préfectures. Et là, si on compare avec d'autres pays, c'est un atout. L'Allemagne, qui est un État fédéral, a eu du mal à faire en sorte d'avoir une politique unique sur l'ensemble du territoire, des mesures et des consignes qui soient uniformes, claires et précises. L'État jacobin, ça a aussi parfois ses avantages quand il faut prendre une décision et faire en sorte qu'elle soit appliquée grâce à l'engagement des fonctionnaires de l'État partout en France.
Alors, à propos de décision, c'est Cécile Cornudet.
Oui, ça vous concerne les policiers, les gendarmes qui sont au contact du public. Est-ce qu'il faut, eux, qu'ils soient vaccinés et vite?
Oui, bien sûr, mais il faut que toute la population soit vaccinée au plus vite.
Pourquoi ça ne se fait pas plus vite pour les policiers et les gendarmes?
Alors, le premier choix, la première stratégie de vaccination qui a été décidée par le gouvernement, c'est de vacciner d'abord les personnes les plus fragiles. Et c'est heureux. Moi, je suis heureuse que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et que les personnes qui ont des phénomènes de comorbidité soient vaccinées en priorité, parce que c'est chez eux que le Covid-19 fait les plus gros dégâts. Ensuite, il y a ce calendrier que le président de la République lui-même a rappelé. Faire en sorte que d'ici la fin de l'été...
Ce sera à partir de quand, les policiers et les gendarmes?
Alors, je termine sur le calendrier. L'idée, c'est que d'ici la fin de l'été, toutes les personnes de plus de 18 ans qui le souhaitent puissent avoir accès à la vaccination. Et c'est bien normal. Ensuite, il y a des populations qui, non pas par leur tranche d'âge, mais par leur métier, sont particulièrement exposées. C'est le cas des enseignants et c'est le cas aussi des policiers et des gendarmes. Et donc cela, ce sera à partir du printemps. Il me semble que le calendrier sera précisé dans les jours à venir.
Alors justement, parlons de calendrier, le président de la République a parlé d'une rouverture.
Pardon, excusez-moi, je vous interromps, mais vous voyez comme vous êtes, entre guillemets, les journalistes. Il y a 10 minutes, M. Mickaël Darmon me dit « le gouvernement veut absolument donner des calendriers, c'est bizarre, pourquoi vouloir donner des calendriers ?» Et là, depuis tout à l'heure, vous voulez savoir la date, la semaine, le mois, etc. Il y a aussi des injonctions paradoxales vis-à-vis du gouvernement. Je vous en prie, reprenez.
Alors que justement, on a eu l'habitude de voir qu'elles n'étaient pas forcément tenues et pas au rendez-vous, et les Français attendent ça en espérant parfois pour certaines choses, notamment pour les ouvertures que va évoquer Damien Fleurot, que le gouvernement ait raison.
Je ne vous interromps plus.
Les ouvertures des terrasses, des cafés, des restaurants, des lieux de culture, il y a un horizon qui est fixé par Emmanuel Macron. Il l'a dit dans son allocution, mi-mai. C'était important de donner comme ça cet espoir à un secteur, celui des professionnels de la restauration, celui du monde de la culture.
Ah, moi, je pense que c'est fondamental. Moi, je fais partie des gens qui, depuis le premier jour, disent « les Français ont besoin d'une perspective ». Même si elle est approximative et même si elle est lointaine, on a besoin de pouvoir, l'humain est fait comme ça, psychologiquement, nous avons besoin de pouvoir nous projeter dans quelque chose de positif. Je parlais des jeunes tout à l'heure, il y a des adolescents, vous leur dites « tu vas devoir choisir ton stage de troisième », ils ont un raisonnement un peu nihiliste en nous disant « mais on ne sait pas où on en sera », etc. En ce qui concerne les professionnels de la culture, il y a énormément de dispositifs d'aide et de soutien financier qui ont été pris par le gouvernement. Mais on sait que quand on devient artiste, on ne devient pas artiste pour des raisons matérielles ou financières. On devient artiste parce qu'on a quelque chose à proposer au monde, du bonheur à partager, de la réflexion.
Donc là, vous prenez le risque éventuellement de décevoir à nouveau parce qu'un report de livraison de vaccins ne permettrait pas.
Je crois que chacun comprend bien que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais que le gouvernement a besoin aussi.
Vous aviez un peu arrêté de donner des échéances et de fixer des clauses de
revoyure. Surtout
celle-là. Moi, je vous donne mon avis personnel. Moi, personnellement, je crois que pour les personnes qui travaillent dans le monde de la culture et qui n'ont pas vu leur public depuis plus d'un an, ou pour les restaurateurs qui travaillent énormément et qui ont donné toute leur vie pour aller servir à manger, partager du bonheur avec les gens et leur proposer des lieux de rencontre, je crois que c'est fondamental qu'ils puissent se projeter et qu'on leur dise voilà l'objectif.
Et si la situation sanitaire se dégrade ou ne s'améliore pas, est-ce qu'il faudra envisager de changer encore de calendrier, de dire on n'est pas prêt, vous pouvez imaginez que ça peut arriver.
Je ne veux pas me perdre en conjoncture, mais l'amélioration de la situation sanitaire, elle dépend aussi de notre capacité collective à respecter les mesures sanitaires. Si les gens pensent qu'ils échappent au virus et vont dans des restaurants clandestins de luxe, et si d'autres font des carnavals, oui, ça risque d'être plus long. Mais si chacun continue à respecter les mesures comme l'immense majorité des Français le fait depuis le début, nous pouvons tenir cet objectif qui est un objectif partagé.
On se retrouve avec Marlène Schiappa pour évoquer confinement et agacement.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Le Premier ministre a pris la parole devant l'Assemblée nationale et donc le Sénat, c'était le jeudi 1er avril, a profité de cette tribune pour dénoncer l'absence de propositions formulées par les oppositions. On écoute, on regarde.
J'aurais aimé, ce matin je vous le dis, que vous m'indiquiez, M. Abad et les autres, comment nous procurer davantage de doses. Mais rien. Mais rien. Et pour cause, M. Abad, je ne vous jette pas la pierre. Vous seriez à ma place, vous feriez pareil.
Voilà, c'était la grande colère théâtrale de Jean Castex cette semaine. Enfin, la manœuvre politique est quand même un peu transparente. Non, on fait voter des parlementaires sur des mesures qui, de toute façon, seront appliquées, sur lesquelles ils n'ont aucun poids. À quoi ça sert de leur demander si, au fond, ils n'ont pas d'avis à formuler ?
Alors, d'abord, moi, je crois que la colère de Jean Castex, elle est profondément sincère. Maintenant, ça fait plusieurs mois, on est en avril, ça fait plusieurs mois maintenant que je travaille... avec le Premier ministre Jean Castex, je vois que c'est quelqu'un qui ne fait pas de comédie, qui ne fait pas de théâtre, c'est quelqu'un de profondément sincère, qui passe son temps dans les centres de vaccination, dans les hôpitaux, pour trouver des solutions. Et donc je crois qu'il est profondément sincère quand il dit « nous proposons des solutions et vous, vous vous opposez, mais vous ne proposez rien, voire vous proposez l'inverse ». Sa longue tirade, qu'on n'a peut-être pas le temps de montrer là, mais quand il dit « vous nous dites depuis des semaines que nous devons rouvrir les discothèques, rouvrir les stations de ski, tout rouvrir, et là nous disons que nous allons fermer ».
Ça date un petit peu, Marlène Schiappa, les oppositions formulé des...
les demandes, elles sont...
À l'occasion de ce débat, il y a eu des propositions formulées.
Bah,
mais sur le principe de, par exemple, sur l'ouverture de l'accompagnement, par exemple, des secteurs en difficulté. Il y a eu des propositions faites.
Alors oui, justement, vous montrez. C'est pour
sur
ça
la
que
disponibilité des vaccins aussi, sur des catégories
d'accord,
de la population. Il y a eu des propositions qui ont été formulées.
Comment on les trouve les vaccins ? Il n'y a aucune proposition concrète qui ait été formulée, réaliste. Quand on entend Marine Le Pen qui dit, Marine Le Pen qui enchaîne les Yaka Faucon. Il faut plein de vaccins. Oui, merci Madame Le Pen. En fait, on y travaille sérieusement depuis plusieurs mois. Vous avez mentionné la ministre de l'Industrie, ministre des Solidarités et de la Santé. Il y a des commandes, il faut que les travaux de recherche soient menés. Il y a quelqu'un dans l'opposition au Sénat qui a dit qu'il fallait avoir des vaccins dès l'année dernière. Frédéric Vidal, qui a travaillé dans le secteur de la recherche biologique pendant des années, haussait les sourcils d'incompréhension. Un vaccin, ça ne se fait pas en un mois, ça ne se fait pas en deux mois, ça se fabrique. Donc je crois qu'il faut être un peu sérieux. Je pense que les Français sont intelligents et qu'ils comprennent les difficultés matérielles auxquelles le pays fait face. Dire « il faut des vaccins », oui. Tout le monde est d'accord, il faut des vaccins. Dire il faut plus vacciner, oui, tout le monde est d'accord. Mais quand les mêmes personnes qui vous disaient deux semaines avant il faut tout rouvrir, et quand vous annoncez qu'on est en train de fermer les écoles, nous disent vous êtes trop mou et ça ne va pas assez loin, maintenant il faut tout fermer, un jour peut-être on fera aussi le droit d'inventaire des non-propositions de l'opposition et de l'indignité de l'opposition politique dans ce pays. J'appelle chacun à lire la tribune de Bernard Cazeneuve, qui est un ancien Premier ministre et qui ne fait pas partie de la majorité présidentielle, qui a dit que quand le pays traverse une pandémie et une crise sanitaire grave, comme nous la traversons en ce moment, il appartient à chacun de réserver ses attaques gratuites et ses critiques gratuites, de se retrousser les manches et de se mettre au travail de façon collective pour le pays.
Cécile Cornudet.
Il y a en revanche une critique qu'on commence à entendre dans la majorité même, y compris au sein du gouvernement, sur le mode de décision, la façon dont se fabrique la décision sur le Covid, cet aspect très solitaire d'Emmanuel Macron qui décide comme ça au dernier moment. Vous qui parlez beaucoup d'acceptabilité des mesures, est-ce que la meilleure façon de l'obtenir, c'est pas d'essayer de créer un consensus en amont autour de ces mesures ?
Si, vous avez complètement raison. Moi, je n'ai pas entendu ces critiques-là au sein du gouvernement. En revanche, effectivement, vous avez raison, le consensus, il est fondamental. Et c'est pourquoi nous voulons partager les informations de la manière la plus transparente possible.
Bah, vous avez la maire de Paris qui dit « j'en ai assez, je ne suis pas dans la boucle ». Vous avez des parlementaires qui disent « on apprend tout à la télé, heureusement qu'on a la télé ».
Il avait dit qu'il n'avait pas été...
Est-ce qu'il n'est pas possible, peut-être, effectivement, d'élargir un peu plus le champ des concertations ? Parce qu'effectivement, même au sein du gouvernement, on entend des ministres qui sont un peu déconcertés par la manière dont les décisions se prennent.
Alors moi, je n'ai pas entendu cela de la part de mes collègues. Je ne sais pas quel collègue a pu dire cela. En revanche, ce que j'observe, c'est que oui, il y a un travail de concertation qui est difficile. Et ensuite, il y a une prise de décision. Et la prise de décision, elle se fait en responsabilité. Il y a d'abord un travail d'écoute, de partage, de recherche du consensus, comme vous le dites, sur tous les sujets, sur la vaccination, comme sur le calendrier de réouverture, comme sur la question démocratique et sur les élections. Et ensuite, les décisions, elles s'assument. Et elles s'assument en responsabilité par les personnes qui sont au gouvernement et qui sont aux responsabilités et qui les assument. Je crois que ça fait partie de l'exercice du pouvoir que de prendre des décisions.
Daniel Fleurot.
Marlène Schiappa, est-ce que vous souhaitez que l'on trouve une solution pour organiser les élections régionales en juin prochain, comme c'est prévu ? Pour l'instant, on n'a pas encore de décision.
Oui, on n'a pas encore de décision. Moi, je souhaite que les élections régionales se tiennent au mois de juin. C'est un souhait personnel qui n'engage que moi, mais pour différentes raisons. D'abord, nous avons voté avec les parlementaires, et je représentais le gouvernement, la loi de report des élections régionales, avec un certain nombre de mesures sanitaires qui ont été prévues. Le fait de, par exemple, mutualiser les assesseurs pour les élections départementales et régionales. Le rapport du conseil scientifique qui nous a été remis le 1er avril pose encore un certain nombre de propositions, notamment...
Mais vous êtes prêt au ministère de l'Intérieur à aider ces collectivités à organiser ces scrutins ?
Oui, nous, au ministère de l'Intérieur, ça fait plusieurs mois maintenant que nous nous sommes organisés justement pour que les élections régionales se tiennent dans les meilleures conditions possibles. Ça a fait l'objet de débats à l'Assemblée nationale, au
Sénat.
Certains
disent que vous êtes frileux, par exemple, sur le vote à distance. Vous n'êtes pas allé très loin, vous avez facilité les procurations.
Alors là-dessus, ce que je veux vous dire, c'est que justement, la décision, elle a été prise de façon collégiale. Et le mot de la fin, si je peux dire, est revenu aux parlementaires. Le Parlement, c'est une chambre de débat, c'est aussi une instance de décision. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale et un vote
au
Sénat.
Là, vous consultez les parlementaires.
On fait voter. En fait, la Constitution prévoit que dès lors qu'il y a un report d'une loi, un vote de loi obligatoire. Le gouvernement ne peut pas tout seul dire « on va décaler les élections ». Et c'est heureux parce que c'est un grand rendez-vous démocratique. Et vous savez, il y a là des conseillers départementaux et régionaux en ce moment qui ont été élus pour un mandat donné. Nous avons prolongé ce mandat jusqu'au mois de juin pour que les élections se tiennent. Je crois que là, en tout cas, nous, au ministère de l'Intérieur, nous sommes prêts pour accompagner les collectivités, les maires, et pour faire en sorte que toutes les mesures sanitaires soient prises et que le vote se déroule. Mais je veux préciser que le Premier ministre a demandé des contributions écrites aux différents représentants des partis politiques. Celles-ci doivent être remises avant le 8 avril. Voilà, un calendrier de consultation, et à l'issue, il pourra y avoir un nouveau débat et un nouveau vote au Parlement si d'aventure l'ensemble des partis étaient d'accord et faisaient consensus pour repousser les élections régionales. Il y a vraiment un dialogue et justement là une recherche de consensus le plus large possible.
Alors, vous voulez justement que ces élections se tiennent. En Île-de-France, faut-il aider Valérie Pécresse, la présidente sortante de la région, contre ce que vous appelez une gauche influencée par les idées indigéniste, Marlène Schiappa?
Moi, je ne veux pas soutenir Valérie Pécresse. Moi, je veux soutenir Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin, c'est le candidat de La République En Marche, qui est un député éminent, qui a été responsable des idées de La République En Marche, qui est rapporteur général du budget. Et sa candidature fait consensus, y compris avec,
qu'il peut gagner la région,
y compris avec nos partenaires Agir, le MoDem, Territoire de Progrès, qui rejoignent et qui soutiennent la campagne
si
de Laurent Saint-Martin.
Si vous vous trouvez dans une situation en Île-de-France et ailleurs, où il faille appliquer ce qu'on appelle le front républicain, hein, pour éviter l'arrivée au pouvoir régional du Rassemblement national, est-ce que vous pensez qu'il faut le faire?
Vous pourrez toujours compter sur les macronistes pour battre l'extrême droite, comme nous l'avons fait en 2017 aux élections présidentielles grâce à Emmanuel Macron. Et vous nous trouverez toujours présents pour faire barrage à l'extrême droite, à Marine Le Pen et au Rassemblement national. Mais moi, je ne veux pas me perdre en conjoncture et partir du principe que le Rassemblement national serait présent au deuxième tour, aux élections régionales. Je pense que les élections, il n'y a pas de fatalité, elles ne sont pas décidées au préalable, et je pense qu'il nous convient, de mobiliser chacun pour qu'on puisse aller voter. Aux élections municipales, nous n'avons pas réussi à convaincre les nôtres d'aller voter et de se manifester, de prendre part au vote. Je crois qu'aux élections régionales, il faut que tous ceux qui soutiennent la majorité présidentielle se déplacent et aillent voter pour nos candidats en Île-de-France.
Pourtant,
ce sera pour
responsables de la majorité et au sein même de La République En Marche, ceux qui le disent honnêtement savent bien que ces élections régionales ne vont pas encore contribuer à ancrer encore plus le parti de la majorité. Qu'est-ce qui manque à La République En Marche après presque maintenant 5 ans au pouvoir pour être ancré dans les territoires?
Mais d'abord, c'est un constat et je le partage, vous avez raison de le rappeler, nous partons comme challenger. Nous ne sommes pas donnés gagnants pour les élections régionales. C'est vrai, il faut le rappeler avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup de réalisme. Et moi, je crois justement que c'est parce que nous ne sommes pas donnés gagnants qu'il faut nous mobiliser. Si on ne partait que dans les élections pour lesquelles on serait donné gagnant d'avance, il n'y aurait aucun panache à relever le défi démocratique. Donc je crois qu'il nous faut nous mobiliser autour de projets. Laurent Saint-Martin a fait des propositions sur la police régionale en Île-de-France pour les transports, par exemple, sur l'écologie. Dans d'autres régions, nous avons des très bons candidats. Je pense à la région Aura où Bruno Bonnel porte une candidature autour des thématiques notamment de la relance, du développement économique, de l'attractivité. Je pense à François de Rugy dans les Pays de la Loire. Nous avons partout des candidats et des candidates qu'il convient de soutenir et pour lesquelles je me mobiliserai personnellement.
En quelques mots, une région sensible sera regardée, bien sûr, les Hauts-de-France. S'il y a là aussi un duel avec le Rassemblement national et Xavier Bertrand, qui est aussi candidat déclaré à la présidence de la République, est-ce que La République En Marche va, au fond, aussi l'aider à gagner?
J'ai entendu la énième déclaration de candidature de M. Xavier Bertrand, qui d'ailleurs s'est déroulée dans une indifférence polie, je dirais, vis-à-vis de la part de la droite, mais de la part de l'ensemble des Français.
Vous avez largement réagi tout de même à cette annonce.
Alors, moi, je n'ai pas réagi, et honnêtement...
La majorité présidentielle.
Sincèrement, regardez, vous savez, toutes les semaines, il y a des récapitulatifs des sujets de conversation qui font le plus réagir. Moi, j'ai vu la vaccination, j'ai vu le Covid, j'ai vu le financement de la mosquée de Strasbourg, j'ai vu les débats autour du monde de la culture.
Et dans ces sujets, il y avait aussi mentionné cette déclaration de candidature, mais indépendamment de la
différence
ou pas.
Vous avez vu des foules qui, à droite, s'est soulevée. Il n'y a pas eu de mouvement liesse à droite pour dire « Ah, génial, voilà notre champion et on va se mobiliser derrière lui ». Il y a aujourd'hui dans la presse l'organigramme de campagne de Xavier Bertrand. Bon, il y a 5 personnes, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment une mobilisation ni de la droite ni des Français. Et par ailleurs,
je voudrais vous dire à titre personnel, je trouve ça très décalé. Pardon, mais on a des soignants qui se battent, qui sont au front tous les jours, qui sont épuisés pour soigner les gens. Vous avez des milliers de personnes qui souffrent du Covid, qui sont en réanimation, des morts, des gens qui sont en train de se battre pour sauver leur petit commerce, pour sauver le monde de la culture. Et vous avez quelqu'un dont la seule préoccupation est sa propre candidature pour une élection qui a lieu dans plus d'un an. Je trouve ça en décalage avec les préoccupations des Français, c'est mon avis personnel.
Et on l'a entendu, on se retrouve dans quelques instants avec vous pour évoquer d'autres démarches politiques. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Mickaël Darmon.
Et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, question de Cécile Cornudet.
Oui, la maire EELV de Poitiers vient de décider de suspendre le versement d'une subvention au club d'aviation amateur au nom du réchauffement climatique. Alors on sait que vous aimez bien critiquer les maires écolos, on l'a vu sur les repas végétariens, etc. Et est-ce qu'elle aussi, elle va trop loin ?
Alors moi, sur les repas végétariens, vous noterez que je ne me suis pas exprimée. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas au nom du réchauffement climatique. C'est au nom des rêves des enfants, ce qu'a dit la maire de Poitiers.
Elle dit que c'est au nom de...
Il y a une vidéo qui est disponible sur les réseaux sociaux. J'invite chacun à regarder cette vidéo parce que dans cette vidéo, la maire de Poitiers dit « Je ne veux pas que les enfants rêvent avec des clubs d'avion ». Moi, j'observe que Europe Écologie Les Verts décide de supprimer les subventions à des clubs d'aviation qui réalisent des rêves d'enfants, mais... trouve que c'est OK de donner 2,5 millions d'euros à une mosquée proche des sphères Erdogan. Donc si vous voulez, en quelques mois, les maires Europe Écologie Les Verts, on pourrait faire un best-of de toutes les décisions sectaires des maires Europe Écologie Les Verts. Entre fêter Noël, c'est célébrer un arbre mort, entre il ne faut pas que les enfants rêvent de ça, donc on va mettre une machine pour contrôler les rêves des enfants maintenant, et entre le fait de vouloir financer à hauteur de 2,5 millions d'euros une mosquée proche des sphères turques et qui refuse de reconnaître la prévalence des lois de la République sur les lois religieuses. C'est tout de même assez problématique. 2,5 millions d'euros, ça représente des places en crèche pour 200 familles pendant un an. Ou ça peut aussi représenter 3 ans de budget de fonctionnement pour une association qui accueille des femmes victimes de violences conjugales. Votre budget, quand vous êtes maire, c'est un outil politique. J'ai été élue locale pour mettre en place des décisions de soutien. Et bien là, je crois que la ligne d'Europe Écologie Les Verts, elle est très claire.
C'est-à-dire qu'en fait, elle est très claire, mais trop ambiguë, selon vous, vis-à-vis des questions de République, de laïcité ?
Je pense que là, on a dépassé le stade de l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est quand on ferme les yeux et qu'on ne fait rien pour contrer l'islamisme radical. Quand on le finance, on n'est plus dans l'ambiguïté. On est dans une forme de complicité. Quand on décide de donner 2,5 millions d'euros d'argent public, d'impôts, pour une association Miligorus qui est proche des sphères Erdogan et qui refuse quelque chose de très simple, juste dire oui, les lois de la République prévalent sur les lois religieuses. Les 5 fédérations de l'islam s'y sont engagées, Miligorus s'y refuse, et on va aller lui dire tenez, prenez aussi 2,5 millions d'euros.
Alors que faites-vous, Marlène Schiappa, justement, pour empêcher la construction de cette mosquée, peut-être, c'est votre souhait. Il y a ce projet de loi aussi pour lutter contre le séparatisme qui est examiné en ce moment au Parlement. Que faites-vous concrètement ?
On fait énormément de choses, et ce, depuis maintenant plusieurs années. Le président de la République a décidé ce projet de loi que je porte avec Gérald Darmanin, projet de loi pour conforter les principes de la République, dans lequel vous avez un certain nombre de dispositions qui nous permettront de mieux agir. En particulier sur cette mosquée, le ministre de l'Intérieur a saisi le préfet pour regarder le sujet et faire suspendre ses décisions. Moi, j'ai demandé clairement à la maire de Strasbourg de renoncer au versement.
Le projet n'est pas nouveau, il date de plusieurs années.
Oui, alors j'ai entendu. Alors, on nous dit, oui, il y a une première pierre. C'est pas parce qu'il y a une première pierre que vous devez donner 2,5 millions d'euros. Sinon, demain, je vais poser une première pierre et je demande une subvention, d'une part. D'autre part, on nous dit, il y a le concordat. Enfin, aucune règle concordataire ne dit, montrez-moi la linéa qui dit, et vous devrez financer l'islamisme radical. C'est absolument scandaleux. Et donc, nous agissons, nous mettons en place, par exemple, il vient d'être voté au Sénat, un contrat d'engagement républicain que je porte. C'est un contrat que nous ferons signer aux associations qui leur demandera de s'engager à respecter les principes de la République. Quand ce ne sera pas le cas, ce contrat qui aura valeur juridique nous permettra d'arrêter les subventions et d'en demander le remboursement. Ce contrat, il sera utile, il est plébiscité par les élus. Le maire de Montpellier, M. Delafosse, a essayé de faire une charte, il est attaqué en justice.
Et il y aura des financements à l'étranger.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a essayé de faire une charte, elle n'y a pas réussi. Elle n'a pas réussi à la mettre en place parce qu'elle a été contestée en justice. Et donc, nous mettons en place juridiquement ce contrat d'engagement républicain. Il sera aussi utile à des maires Europe Écologie Les Verts, puisque le maire de Grenoble, Éric Piolle, s'est aperçu qu'il avait malencontreusement financé le CCIF, pendant des années et maintenant il le déplore, mais il ne peut pas demander le remboursement. Si ce contrat d'engagement républicain avait été mis en place, il pourrait demander le remboursement de cet argent public des impôts.
Alors Marlène Schiappa, nous sommes à 12 mois de l'élection présidentielle. Petit souvenir, en mars 2016... un ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 au sujet de sa loyauté vis-à-vis de François Hollande, répondait ceci, on écoute, on regarde.
Je sais à qui je dois le fait d'être là. C'est François Hollande. C'est juste qu'on ne se construit pas dans la vie, contrairement à ce qu'en effet beaucoup de gens dans
mais
cette comédie font.
C'est formidable de le dire.
Voilà, donc je vous
donc,
le dis.
Donc,
loyauté à mes
donc
idées,
vous dites ce matin,
et en même temps, il y a des principes de vie
ce matin,
à respecter.
Hollande est le candidat légitime.
Mais bien sûr.
Alors on connaît la suite, hein. Est-ce qu'une nouvelle opération Brutus n'est pas en préparation avec Édouard Philippe en ce moment? Le livre, le plan média, ce soir sur France 2, est-ce qu'il n'est pas déjà en campagne et s'apprête au fond à faire ce qu'on fait dans toute la vie politique à un moment donné, changer d'avis?
Alors d'abord, je m'associe évidemment pas du tout à l'appellation opération Brutus pour ce que nous avons réalisé autour du président de la République, Emmanuel Macron. Je vous rappelle que François Hollande lui-même a fait le constat de son propre échec en actant le fait qu'il n'était même pas en mesure de se présenter à sa propre succession. Il y a un livre qui vient de sortir d'un de ses anciens premiers ministres, Manuel Valls, dans lequel il rappelle justement un certain nombre d'échecs de ce quinquennat, et c'est aussi l'échec de François Hollande qui a amené Emmanuel Macron à vouloir se présenter, à présenter une alternative.
Emmanuel Macron, conseiller du président de la République et ministre de François Hollande, donc c'était peut-être aussi son échec.
Une manière de dire aussi.
Non, je ne crois pas, je crois qu'au contraire... Non, pardon, je vous réponds là-dessus. Toute l'action du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, elle a permis d'avoir les bons résultats économiques du début de quinquennat du président de la République, Emmanuel Macron. Donc là-dessus, non, je crois qu'il y a plutôt une réussite.
Par rapport à Édouard Philippe, vous ne sentez pas l'opération qui peut venir? Vous avez confiance quand il dit absolument, jamais je me présenterai contre le président de la République?
Moi, j'ai un immense respect et une admiration pour Édouard Philippe, qui a été Premier ministre.
Est-ce que vous demandez qu'il clarifie sa position?
Alors, je vous réponds, j'ai un immense respect et une immense admiration pour Édouard Philippe, qui a été Premier ministre pendant plusieurs années du président de la République, Emmanuel Macron. Moi, j'ai eu l'honneur pendant plus de 3 ans d'être sa secrétaire d'État, puisque je lui étais rattachée directement. Je crois qu'il est plutôt normal et sain qu'un ancien Premier ministre ait une voix dans le débat public. Je lirai son livre avec beaucoup de plaisir dès lors qu'il sera disponible en librairie.
Il ne vous l'a pas
envoyé. J'écoute sa parole. Alors, le livre n'est pas encore sorti, donc on reçoit les livres. J'ai reçu celui de Manuel Valls, j'ai reçu d'autres livres. Il n'est pas encore sorti.
En attendant, vous pouvez lire l'interview au Point. Et dans l'interview au Point, sur beaucoup de sujets, il est vraiment en noir et blanc par rapport à Emmanuel Macron, sur la conception de la Ve République et le rôle du président par rapport au Premier ministre, sur l'humilité, sur les réformes qu'il faudrait continuer à mener. Est-ce qu'il va trop loin, en fait?
Je pense qu'on fait peut-être un tout petit peu de surinterprétation quand on fait l'exégèse des propos d'Édouard Philippe. Je crois que Édouard Philippe et Emmanuel Macron sont deux personnes différentes, et donc c'est assez normal qu'ils ne disent pas exactement la même chose. S'ils disaient la même chose, si Édouard Philippe disait exactement la même chose que le président de la République, on lui dirait que ce sont des éléments de langage. Il a sa propre personnalité, son propre parcours, il l'exprime, et c'est bien normal. Et moi, je n'ai vu aucune attaque.
Est-ce qu'il doit l'aider pour sa réélection? Est-ce qu'il doit l'aider, Édouard Philippe, pour la réélection d'Emmanuel Macron?
Mais moi, je souhaite que d'abord le président de la République se représente. Il ne s'est pas exprimé sur cette question. Et ensuite, je souhaite évidemment qu'il remporte l'élection présidentielle et puisse faire un deuxième quinquennat. Mais je l'ai dit tout à l'heure pour Xavier Bertrand, c'est aussi valable pour nous-mêmes. Je me l'applique également. Je crois que là, nous sommes dans une période singulière dans laquelle ce serait un tout petit peu prématuré de commencer à parler de premier tour et de deuxième tour des élections présidentielles.
Parce qu'une élection présidentielle, pour vous, ça se prépare quoi? En un quart d'heure? Bah,
non,
en trois
mais
jours,
vous avez montré tout à l'heure un court extrait vidéo de propos qui avaient été tenus en mars 2016. Nous sommes en avril 2021 et donc nous voyons bien que la situation de avril 2021, elle ne sera pas
tard,
forcément
Emmanuel
la même
Macron crée
en mai
son propre parti
2022.
Et commence sa conquête vers l'Élysée. Donc vous voyez bien que ça se prépare quand même.
Bah, bien évidemment, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense qu'il est un peu tôt pour commencer à faire des déclarations sur les uns et les autres et sur l'élection présidentielle.
Un dernier mot sur Édouard Philippe. Peut-être, quel rôle doit-il avoir au sein de votre majorité, Édouard Philippe, dans les semaines, les mois qui viennent?
Édouard Philippe n'est pas mon employé, hein. C'est pas à moi d'aller lui dire quel rôle il doit avoir dans l'élection présidentielle. C'est un choix qui doit se faire entre Édouard Philippe et le président de la République ou l'équipe de campagne. Chacun est libre de ses choix et de l'engagement qu'il souhaite avoir pour le pays. Et je crois qu'Édouard Philippe n'a pas démérité dans son engagement et ni dans son bilan de Premier ministre qui est à saluer.
Dernière minute, on vient d'apprendre, on a appris donc ce matin l'agression à son domicile, le Bernard Tapie et de son épouse, hein, en Seine-et-Marne. Est-ce que vous avez d'informations supplémentaires par rapport à cette information, cette agression ?
La police judiciaire est pleinement mobilisée pour justement pouvoir retrouver les agresseurs et ensuite je souhaite que la justice se passe. Moi, je voudrais adresser un message de soutien à Bernard Tapie et à son épouse. Faire un cambriolage, ligoter des personnes, c'est déjà particulièrement indigne, au-delà d'être évidemment illégal. Mais quand on sait, et c'est de notoriété publique, que Bernard Tapie est malade et qu'il est souffrant, je trouve que c'est particulièrement abject de le cambrioler, de le ligoter, de le molester ou de l'agresser finalement, lui ainsi que son épouse. Et donc je souhaite qu'ils aillent vite mieux et que la justice puisse passer.
Merci, c'était le grand rendez-vous de Marlène Schiappa.
Merci à
vous. À dimanche.
Europe 1.